Italie, dont le froid glacial et le vent cinglant, sur les roulis d'un bateau déchaîné en pleine tempête hostile au large de côtes lointaines. Cette ambiance, c'est ce qu'évoque la musique du premier EP de Houl, groupe de black metal français d'inspiration maritime. Ici, pas de blouson de cuir et de bracelet à pic, mais plutôt des bottes, des marinières et des cirés. Si l'univers se veut crasseux, suintant et rappelle l'insignifiance de l'homme devant l'immensité de l'océan, les membres de ce groupe ont plutôt les pieds sur terre. Houl pratique un black metal mélodique, au riff agressif, porté par une voix incarnée, au bord de la folie parfois. La solitude face aux éléments, la grandeur de l'océan, la violence des tempêtes, c'est ce qui s'exprime dans ce court EP très prometteur, aux thématiques qui ne sont pas souvent abordées dans le black metal. Leur premier album paraîtra courant juin et ils seront sur la scène black metal, la célèbre Temple du non moins célèbre festival Hellfest. Rencontre avec Crab et Hatsa, respectivement l'un des guitaristes et la chanteuse du groupe, pour parler d'univers maritime, de lecture et de l'identité du groupe. Je rappelle que Poukalichou, c'est un podcast faisant partie du label Podcut, lien et info dans la bio, lien dans la bio aussi pour le bandcamp du groupe et le bandcamp de son label, Les Acteurs de l'Ombre. Merci à Houl pour l'habillage sonore de l'épisode. Bonsoir Hatsa, bonsoir Crab. Alors, est-ce que vous pouvez, avant qu'on parle un petit peu plus de l'univers, des paroles, etc., de Houl, présenter un petit peu le groupe, le concept, et pourquoi du black metal plutôt maritime?
Quand je suis arrivé à Paris, en fait, je suis brestois, et quand je suis arrivé à Paris, j'avais un peu une volonté de retourner, de faire un projet artistique qui me rappellerait l'endroit d'où je venais, mon enfance, ma jeunesse, etc., etc. Et quand on vient de Brest, on va dire que l'océan joue une grosse part dans les choses du quotidien. Donc c'est venu assez naturellement. J'ai voulu créer quelque chose qui musicalement me parlerait à titre personnel. Donc j'ai créé Houl. Bon, certes, c'est du black metal. On va pas dire que ça représente ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, évidemment. En tout cas, le thème maritime partait d'une volonté de retourner à mes racines, on va dire. Donc voilà, j'ai commencé à écrire quelques morceaux à la fin de l'année 2018. Et puis après, au fur et à mesure, on s'est tous rencontrés avec les musiciens du line-up actuel. Et depuis, c'est vraiment plus devenu... On a gardé la thématique de l'océan, des marins, etc. Mais c'est devenu un projet beaucoup plus collaboratif avec vraiment des interventions et de la composition, que ce soit des paroles ou des instruments, de la part de toutes les personnes qui font partie du groupe désormais.
Comment est-ce que tu as un peu casté le groupe?
Alors en fait, quand je suis arrivé à Paris, je connaissais pas grand-chose au métal, pas beaucoup de musiciens et pas grand monde en fait en général. Donc j'avais perdu un peu de l'intérêt que j'avais pour la guitare, pour la musique en général, enfin surtout pour ce qui est de travailler mon instrument, on va dire, qui est la guitare. Et je m'étais dit que en formant un groupe, ça me donnerait un regain d'intérêt pour la musique. Alors, avant de former un groupe, je voulais pas un groupe de reprise, je voulais faire quelque chose d'un peu plus personnel. Donc, je me suis dit que j'allais commencer à écrire des morceaux, évidemment avec le stress que personne ne les trouve à son goût et que du coup, aucun musicien ne veuille rejoindre le projet. Mais il s'avère que après avoir composé, je sais pas, 2-3 morceaux, je les ai postés sur Zikinf, qui est un site de partage d'annonces. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai rencontré quelques musiciens, donc Zephyr, qui est l'autre guitariste qui est arrivé en premier dans le line-up actuel, puis on a eu Vixer, qui est notre batteur, et enfin, je crois que c'est justement Vixer, notre batteur, qui a ensuite déniché Hatsa, qui a été ami de longue date avec Gregast, qui est notre bassiste, et voilà.
Il y a donc une femme au chant dans ce groupe, ce qui n'est pas si rare que ce que beaucoup de gens le pointent dans le métal, mais qui dans le black est encore un petit peu plus rare. Comment est-ce que déjà ça a été reçu et comment, Hatsa, est-ce que tu es venu à ce type de chant?
C'était tout simplement les musiques que j'écoutais en fait. Moi, j'étais une adolescente qui écoutait du métal, qui écoutait plus du heavy, plus du power, et puis qui au fur et à mesure s'est retrouvée à écouter du black, à croiser les sorties des acteurs de l'ombre. Et à écouter en fait de plus en plus de black français notamment. Et je sais pas, c'était quelque chose dans lequel je m'assimilais plus que du chant clair féminin. C'était quelque chose où je pense il y avait ce truc-là pendant des années où j'aimais pas du tout le chant féminin. Et il y avait ce côté-là dans le guttural qui était beaucoup plus androgyne en fait. Donc où je m'y retrouvais plus. Et je pense que c'est de ce côté-là un peu androgyne où en fait au final il y avait moins de disparité homme-femme je pense sur la manière de chanter le rendu au chant même si maintenant je me rends compte que c'est pas si vrai que ça mais voilà à l'époque sur ma petite oreille d'apprentie chanteuse. Donc oui, je pense que c'est plus comme ça que les choses se sont faites, que le chemin s'est fait pour l'arrivée dans le guttural, au black metal, etc.
Et quel accueil un peu as-tu reçu? Est-ce que il n'y a pas eu spécialement de, on va dire, de remarques par rapport au fait justement que tu sois une femme qui fait du chant guttural, ou au contraire, est-ce que tu as pris des remarques sexistes et méprisantes au possible?
Franchement, non. Honnêtement, enfin, on a pu entendre de temps en temps, mais pas en frontal, des rumeurs, enfin des on a j'ai entendu que ou des messages, enfin ou des posts assez rares au final par-ci par-là, mais franchement qui n'étaient pas notables de par leur nombre. J'ai l'impression que la majorité des gens s'en foutent.
Crabbe, tu disais que vous aviez une écriture assez collective. Est-ce que c'est au niveau de l'écriture composition ou au niveau de l'écriture des textes? Comment ça se passe déjà d'un côté et de l'autre?
Je pense qu'on a une façon de faire qui est assez bordélique par rapport à d'autres groupes. Pour le premier EP, j'avais écrit on va dire des squelettes de morceaux, mais juste instrumentaux. Et puis je suis pas très bon bassiste, je suis pas très bon batteur, donc j'avais fait le minimum. Et puis ensuite, les musiciens du groupe ont chacun refait un peu leur partie. Et après, en fait, on dissèque les morceaux tous ensemble et puis on les rapièce de manière à avoir quelque chose qui nous plaît plus que, on va dire, le squelette initial. Ça permet d'obtenir un rendu final qui est généralement meilleur puisqu'il y a l'expertise de tout le monde dans chaque morceau. Pour ce qui est des paroles, en fait, on est trois à avoir écrit des textes pour l'instant. Généralement, si quelqu'un se sent inspiré par un morceau en particulier, on lui laisse le soin de d'écrire les paroles. Donc, pour le premier EP, je sais que moi j'ai écrit les paroles de D'au loin la tempête. Et sinon, Matza, tu peux peut-être m'aider, mais je sais plus qui a écrit les autres. Mais en fait, c'est un peu réparti entre Adsa, Vixer et moi-même.
C'est Vixer avait écrit les paroles du continent et de Sous l'astre noir. Et moi, c'était la dernière traversée.
Et là, sur le futur album, on a toujours un petit peu la même manière de faire. Il y a des idées qui naissent, on va dire, aux guitares, surtout de Grégas, donc notre bassiste, et de moi. On fait pareil, on continue à faire des sortes de squelettes de morceaux qu'on propose aux autres. Puis après, chacun y amène sa patte. Je pense par contre que là, sur le futur album, Adsa prend plus de confiance et plus de on va dire de poids au niveau de l'écriture des textes, puisqu'en fait ça il y a une certaine patte qui commence à naître chez elle pour l'écriture des textes. Donc c'est bien de voir aussi que chacun s'approprie un petit peu son rôle.
Et justement, qu'est-ce qui déclenche, on va dire, une envie d'écriture de texte? Il y a un côté très, très lyrique dans certains morceaux. On sent vraiment le côté l'homme face aux éléments. Qu'est-ce qui vous inspire en termes d'influence littéraire, etc.?
Alors, je ne suis pas une très grande, enfin, c'est un grand dame, je ne suis pas une très grande lectrice, malheureusement, je n'ai pas une très grosse culture littéraire. Là où j'étais plus inspirée sur, du coup, c'était le texte de Dernière Traversée, ce qui m'inspirait le plus à ces moments-là, c'était plus que des références littéraires, c'était des références musicales. J'avais été pas mal inspirée par le groupe Heads, en fait. Avec un peu ce côté-là où je voulais amener ce côté un peu spleen et un côté un peu black metal, un peu DSBM. Moi, ça a été plus mon inspiration personnelle, elle est plus de ce côté-là.
Oui, mais c'est en fait une inspiration ouais, plus d'univers musicaux et qui déclenche une envie d'écrire sans aller, pour prendre un gros cliché en termes de littérature maritime, piocher vers Moby Dick ou des choses comme ça.
Bah pour ça qui me fait rire, parce que justement je m'étais un peu fait cette reproche là en fait je m'étais fait un peu ce reproche là à la suite de l'écriture de l'EP et donc justement je m'étais mis à lire notamment Moby Dick pour l'album. Justement il y a un morceau qui est directement inspiré justement justement de ce livre là mais c'est vrai que pour l'EP on n'avait pas trop eu encore ce cheminement de penser
C'est amusant parce qu'à l'écoute de l'EP, j'ai retrouvé ce côté un peu épique et un peu désespéré qu'on peut trouver, donc, notamment dans Moby Dick, mais dans d'autres récits de marins ou même de contes et légendes qui mettent en scène des marins, de côté un peu désespéré face aux éléments et en même temps aussi d'apaisement, puisqu'il n'y a pas que des morceaux brutaux ou un peu énervés. Tu citais l'influence DSBM, qui pour les profanes, c'est le dépressif suicidal black metal, qui est donc plus lent. Ça se ressent clairement dans les textes, j'ai trouvé, de l'EP.
Alors, moi, j'ai pas écrit beaucoup de textes, mais c'est sûr que bon, bah, je lis moins qu'il y a quelques années, puisque j'avais fait une prépa littéraire, et donc forcément, c'était presque du gavage, on va dire, au niveau des livres, donc j'en avais lu beaucoup, beaucoup, et après, je me suis plus recentré sur ce qui me plaisait, mais c'est vrai que, bah, on parlait de livres qui ont un thème maritime, marin. Moi, c'est vrai que, bon, comme ça, je pense à... Il y avait une amie de ma mère qui était libraire qui me conseillait souvent des livres. Donc, j'ai lu, je sais pas moi, Lord Jim, Martin Eden, des choses comme ça, avec un espèce d'anti-héros qui évolue toujours un peu sur l'eau, qui part en mission sur des grands navires, des choses comme ça. Mais oui, il y avait plutôt le côté un peu désespéré, pas quelque chose de glorieux ou de justement d'héroïque, mais plutôt tout l'inverse. Et quand j'écris des textes, là sur l'album notamment, j'aime bien ce côté un peu crasseux, des choses, c'est rien comme même tout ce qui est Zola, des choses qui font presque maladive. On a essayé de retranscrire un peu ça, je pense, plus dans les futurs morceaux de l'album. Donc malheureusement, comme il n'est pas encore sorti, on peut pas vraiment en dire plus. Mais c'est vrai que là, il va y avoir, je pense, une transition par rapport à l'EP où on parlait beaucoup des éléments, et là, on va se recentrer un peu plus sur l'homme. Et enfin, le marin, on va dire, et forcément, justement, ce que je disais, ce que ça disait, quelque chose qui est pas forcément, voilà, très noble ou très beau, mais plutôt, justement, assez sale, crasseux, pauvre, enfin, tout ce qui va bien dans le black metal, finalement.
Au niveau donc Hadza, tu citais Hetz en inspiration musicale. Quelles sont vos autres inspirations, que ce soit d'autres groupes, mais aussi en termes de cinéma, de peinture, de photos, qui vont nourrir, on va dire, votre imagerie, et aussi les visuels du groupe.
Oh bah, en termes de visuel sur scène, on va pas se mentir, on a un peu tapé dans les clichés. Hein. On a pris la marinière, ouais. Les bottes aigle, les gros cirés.
Bah, après, ouais, je cherche le nom de ce film depuis tout à l'heure, mais oui, voilà, c'est ça. C'est, en visuel, il y avait quand même pas mal des images qui étaient ressorties. Du film, on s'inspire du visuel du film de Lighthouse.
Et même vos tenues, justement, ce côté un peu crasseux, tu disais Crab, où l'ambiance est assez poisseuse, c'est ça que vous essayez un peu de rendre
Oui. Quand on voit maintenant désormais les tenues de scène, c'est vraiment ça. Le but, c'est d'avoir l'air le plus. Ouais, presque le plus sale possible. Mais en rapport avec toujours avec l'océan et l'univers maritime. Donc en fait, ouais, on a une tenue un peu, on va dire un peu stéréotypée, mais vraiment cradossée au possible, quoi.
C'est stéréotypé pour du marin, mais pour le coup, pour du black metal, on est loin du côté cuir, blouson de cuir, pic, maquillage, corpse paint.
Et on est dans le black à capuche quand même, moi.
Oui.
Ah, vous avez des capuches, c'est vrai.
Ouais. Eh, c'est validé black metal, on a des capuches.
Des bottes aigle, mais des capuches.
C'est ça. On a d'ailleurs eu, ça m'avait fait rire, ça, on avait eu des réflexions quand on avait sorti nos visuels officiels, enfin nos photos officielles promo. On avait eu pas mal de réflexions disant enfin une utilisation cohérente des capuches sur scène avec ce côté tiré de pluie, tempête. Ça m'avait fait rire comme réaction du public.
Au début, il y avait quelques personnes qui n'étaient pas forcément convaincues, je pense, par les sirènes, mais au fur et à mesure, ça
s'est imposé.
Ça a fait son petit. Oui, voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Maintenant, tout le monde trouve ça presque normal et les gens viennent, certains viennent en marinière à nos concerts, donc tout va bien.
Alors vous avez tous les deux parlé d'un album qui sans doute va sortir bientôt. Est-ce que vous avez une date et quelques, sans spoiler ni rien révéler de confidentiel, quelques éléments à donner dessus?
Cet album, sa date de sortie est prévue le 3 juin. Comme Crab a pu le dire un peu plus tôt dans l'interview, il est plus axé vers l'humain. Il est plus axé. On avait déjà ces prémices-là dans l'EP et on a eu tendance à s'affirmer dessus sur l'album. Les paroles sont plus axées vers l'humain vis-à-vis de la mer. Donc c'est un album au final, même si on traite de la mer, c'est en fait au final un album qui est très au niveau des sujets abordés, qui est très terrestre, qui est très, on va dire, portuaire. Ouais, on a eu tendance à s'affirmer sur ce côté-là un peu humain désemparé, la mer, tout ce qu'elle peut apporter ou enlever un peu à l'homme. Et aux vies qui l'entourent.
Oui, c'est quelque chose de plus tragique, concrètement tragique. On peut dire que sur l'EP, qui était plus. On sentait sur certaines chansons un côté un peu grandiloquent, très effectivement d'éléments. Là, c'est plus la fragilité humaine et tout ce qu'un humain peut perdre aussi face à la mer.
Bah, totalement. Déjà, c'est un album qui va être beaucoup moins lyrique au niveau que ce soit au niveau du style d'écriture que dans les termes, dans les sujets abordés. C'est un album qui va être beaucoup moins lyrique et beaucoup plus. Je sais pas quel terme employer.
Crasseux, vraiment, encore une fois.
Hein, la misère, ça se part.
Hein. Oui, mais c'est ça, ça va. Ça va. Autant, je pense que l'EP était tragique, on va dire, plus tragique dans la composition instrumentale et assez épique peut-être dans les textes. Et là, on va plutôt faire un retournement de situation et ça va devenir un peu l'inverse. La musique devient plus épique, je pense, dans cet album, mais les textes bien plus tragiques et vraiment, il y a un côté sale, un côté presque un peu. Il y a de l'argot, si on veut, il y a du langage, on va dire, plus brut. Donc, mais oui, le but, c'est plus de justement de personnifier un petit peu justement les personnages qu'on incarne, enfin, de représenter dans les textes les personnages qu'on incarne sur scène. Nous, on aime penser que c'est un album fait pour du live, qui est fait pour être joué. Et je pense qu'en plus, ouais, beaucoup des textes d'Adza iront vraiment bien avec le personnage qu'elle incarne sur scène, qu'on appelle nous la folle. Ça a du sens, ouais, selon moi.
Il y a un côté, effectivement, tu dis personnage incarné, très théâtral aussi dans le black metal, alors qu'il est souvent pris très au sérieux. Comment est-ce que vous avez un peu créé vos personnages de scène, justement ?
Alors, pour le coup, le personnage qui s'est créé sur scène et qui, au final, on a décidé d'un peu plus officialiser, même si c'est là, on est aux prémices de ça, peut-être, donc ça se voit peut-être pas encore trop, que ce soit dans notre... d'ailleurs, j'en sais rien, j'ai du mal à avoir du recul dessus, donc ça se voit peut-être pas forcément encore trop sur nos réseaux, sur les imageries qu'on développe, etc. Donc c'est quelque chose qu'on est plus en train de mettre en branle maintenant. Il y a eu effectivement ce côté-là où, sur scène, j'avais décidé un peu de jouer, d'être habité, en fait, pour avoir un jeu de scène à présenter au public, en fait. Ça a démarré assez bêtement en me disant, eh bien, je suis sur scène, maintenant il faut que je fasse quelque chose de cohérent avec notre musique, qui puisse retranscrire notre musique au niveau de ma gestuelle. Donc en fait, le raisonnement a été assez bête en soi. Il a été de me dire, comment je me représenterais notre musique. Moi, j'ai l'impression d'avoir ce côté-là, d'être sur un bateau qui est en pleine tempête, ça tangue, ça va, ça vient, il y a du remous, t'es jamais dans la stabilité. Pour moi, tout a démarré un peu sur ce côté-là. Je suis pas stable sur mes appuis et faut que toujours montrer ce côté tangant, comme sur un bateau, en fait, sur scène. Donc c'est pour ça, je sais pas si t'as pu regarder des lives.
Ouais.
C'est pour ça qu'il y a ce côté-là un peu. Je pars dans tous les sens, je tangue, je suis sur le point de tomber, je reviens, je repars. En fait, ça, au final, ça a donné quelque chose. Où quand on sortait de scène, les gens parlaient de ce côté-là où on avait l'impression que je tanguais, j'étais sur un bateau, mais ils disaient aussi que j'avais l'air d'une folle. Et en fait, c'était plus là-dessus, au bout d'un moment, à force d'avoir des retours du public, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être un truc à construire là-dessus, d'avoir un personnage, tu sais pas s'il est bourré, s'il est sur un bateau en train de tanguer, si c'est la tempête, et que d'un coup ça se calme, il reprend ses appuis, de voir ce personnage en fait évoluer tout du long du concert. La capuche et le ciré, je l'ai fait tomber très vite, tout simplement pour pouvoir continuer à avoir cette gestuelle frénétique. Mais oui, c'est vrai qu'on là-dessus, on rejoint pas trop le BM capuche. Pour moi, c'est vraiment un travail d'interprétation de ce qui est raconté dans les textes, c'est-à-dire que on fait du guttural, donc. On va rien comprendre. Déjà, qu'en CD, on comprend pas des masses du guttural. En live, à fortiori, on comprend encore moins. Tout pour moi, le travail du chanteur, enfin du vocaliste, c'est de, même si bon, ça, c'est pas pour autant de la langue des signes, c'est de pouvoir quand même avoir une interprétation plus imagée de ce que tu es en train de raconter. De ce que tu es en train de raconter, en fait, c'est un biais de. Un biais en fait vers le public, un autre biais vers le public en fait.
Ouais, un lien pour l'inclure en fait, que ce soit pas vous jouiez pas entre vous et que ce soit vraiment quelque chose qui est donné au public et qui est montré.
C'est ça, je pense qu'on est totalement là-dessus. Voilà, si ça peut en plus faire. Si ça peut en plus être quelque chose, on va dire, qui nous représente ce personnage de la folle. À travers nos imageries sur les réseaux. Je pense que quelque chose où on, enfin, c'est quelque chose d'intéressant pour nous, quoi. Donc, enfin, c'est solidifie notre image, en fait, tout simplement, notre image de en tant que houle.
Et pour finir, vous êtes programmé au Hellfest 2024. Comment ça s'est passé d'être programmé, et qu'est-ce que ça représente pour Houle?
Oh bah ça fait, on va pas se mentir, hein, c'est assez plaisant. On était en train d'enregistrer l'album, on était en train de faire une écoute avec Cédric, l'ingé son qui a de DNA Studio, qui a enregistré notre album et notre EP. Et en fait, le dernier jour, quand on écoutait ça, on a eu la confirmation de la part de Simon de chez Eclosion Booking qui s'occupe de nous trouver des dates qu'on avait été confirmées et qu'on allait ouvrir sur la Temple le vendredi. Donc forcément, on sait pas trop. Apparemment, donc la programmatrice du Hellfest aime beaucoup ce qu'on fait. C'est une chance, hein, on va pas se mentir. Et c'est une étape, une très grosse étape, je pense, dans une carrière de musicien, surtout dans le métal.
Le Hellfest, c'est le seul festival que tout le monde, que ce soit le festival de métal, que tout le monde connaît en France. C'est-à-dire, même si t'es pas dans le milieu métal, quasiment tout le monde connaît le Hellfest, sait que c'est un très gros truc. Et c'est pas rien que pour ça, il y avait ce côté-là où ça te donne une notoriété de dire que tu as pu jouer au Hellfest, ça t'assoit un peu une certaine notoriété en tant que groupe sérieux, en fait.
Et à partir du moment où le nom du Hellfest est lâché, ça prend une toute autre ampleur, c'est vrai. Ce qui me fait peur, c'est que ça arrive aussi très très tôt. Ouais. Et j'ai pas envie que ça. Bah, qu'en fait, qu'on atteigne le sommet de ce qu'on peut faire aussitôt dans la carrière, enfin, ou dans l'histoire du groupe. Donc il faut voir ça comme une première grosse étape. Voilà. C'est ce que j'essaye de me dire maintenant pour moins stresser. Il faut se dire que bah, quand on va y jouer, il faut être digne des organisateurs, des autres groupes, des groupes qui n'ont pas pu y jouer, de nous-mêmes, du public, de tout le monde. Donc forcément, c'est en tant que musicien, pour un événement musical, c'est une grosse responsabilité. Donc,
une grosse pression.
Aussi. Mais c'est pas grave, si on se vomit dessus, on aura déjà les marinières bien crades, donc personne n'y verra rien.
Et aussi, je voulais ajouter, tu les as pas cités, quand tu nous as demandé comment on avait fait pour jouer aussi, enfin pour jouer en fait au Hellfest, mine de rien, les acteurs de l'ombre, les acteurs de l'ombre qui est notre label. Chaque année, ont toujours au moins deux groupes de leur roster de programmés au Hellfest. Donc, vis-à-vis du Hellfest, c'est quand même une institution de faire jouer des groupes locaux, parce que le label est installé à Nantes. Donc, Nantes, qui sont, c'est à côté. Donc, c'est quand même une institution pour eux de faire jouer des groupes qui sont rattachés à Nantes.
Puis après, ça s'est un peu enchaîné, quoi. Ça a fait grand pas, plus grand pas, plus grand pas.
C'est ça. Et maintenant, il faut voir jusqu'où on peut continuer à faire des grands pas. C'est une vraie, vraie belle aventure. Puis en plus, dans le groupe, on s'entoure tous vraiment très bien. Donc en fait, c'est chouette de vivre ça tous ensemble. Bon, c'est vraiment pas très black metal ce que je dis, mais bon. Podcast.